Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, évadés du moule, furtifs, inventifs et sauvages, délicats, bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde bien curieuse de ce mardi 26 mars. Aujourd'hui, on célèbre les noces de la matière et de la création. Tu rigoles.
On est le 25 mars.
Mais on est le 25 mars.
Et mardi.
Oui, on est mardi.
T'as dit mardi 26, c'est tout.
Mardi 26, mais on est évadé du moule, bien sûr. Pourquoi un mardi ne serait...
Personne n'a relevé. Hein.
C'est ça. Aucune auditrice, aucun auditeur. Bon. On célèbre donc aujourd'hui les noces de la matière et de la création, de l'œil et de la main, ou de la carpe et du lapin, ça arrive. À l'occasion des JEMA, les joyeuses émancipations du moule académico-industriel. Non, pardon, les journées européennes des métiers d'art qui auront lieu du 31 mars au 6 avril dans plusieurs communes de la Comcom du bassin d'Aubenas. Les métiers d'art et la création, ces drôles de métiers et derrière ces drôles de femmes et d'hommes à l'esprit de contradiction industrielle, ces évadés du monde standardisé qui entraînent dans leur fuite tout un pan de fiefés rêveurs qui veulent quitter le peloton. Et comme c'est curieux, c'est dans notre département, à la Mèche Rebelle, que l'on trouve la plus forte densité d'entreprises d'artisanat d'art et de création de la région. 70 entreprises pour 10 000 habitants. Pas mal, hein ? Devant la Drôme, 60 et la Savoie. Aujourd'hui, on propose donc un petit portrait sensible collectif de trois d'entre eux qui nous parleront de ce que représente l'artisanat d'art, la création, le temps long et bien d'autres choses encore. Déborah Di Francesco qui est luthière. Bonjour Déborah.
Bonjour.
À tes côtés, Samy Abdenabi, pardon, qui est ébéniste. Bonjour Samy.
Bonjour.
Samy, ça ira bien. Ouais. Et Claude, Claude Vernet, à tes côtés, créateur de bijoux. Bonjour Claude.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être venus ici dans les locaux de Fréquence 7. Et merci Sylvain de t'être réveillé ce matin et d'être là derrière les vitres.
Mais de rien.
Pour la réalisation de cette émission. Et merci Clara. Bonjour.
Salut.
Pour la préparation de l'agenda.
Et on commence cet agenda avec un ciné-piscine à l'Hippocampe à Aubenas ce soir à partir de 19h dans le cadre de la fête du court-métrage. L'occasion de découvrir une série de courts-métrages pour petits et grands, confortablement installés dans l'eau à 32 degrés du petit bassin ou sinon sur les transats. Le ciné-piscine, c'est ce soir donc à l'Hippocampe. L'entrée est au tarif habituel et la réservation est fortement conseillée car le nombre de places est limité. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l'Hippocampe ou de la Maison de l'Image. À la médiathèque intercommunale des Vences, l'auteur Olivier K viendra demain faire une lecture illustrée et en musique de son livre jeunesse « Ce qu'on raconte au bout du monde » qui est un récit de voyage en Malaisie, où l'auteur part à la recherche d'une histoire à ramener et à raconter à une petite fille de 9 ans. Un récit de voyage qui s'adresse à toute la famille, qui est à voir demain à 17h30 à la médiathèque des Vences. L'entrée est libre et gratuite. Et si vous souhaitez avoir d'autres informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la médiathèque. Le Carrefour laïque d'Aubenas organise une conférence sur les fossiles d'Ardèche avec Bernard Rioux, jeudi à 18h au Centre Le Bourneau à Aubenas. Le Muséum de l'Ardèche, qui est situé à Balazuc, abrite l'une des collections les plus impressionnantes de fossiles à conservation exceptionnelle au monde, avec près de 600 pièces originales. Cette collection raconte l'histoire fascinante de la vie en Ardèche remontant à plus de 300 millions d'années. Bernard Rioux, paléontologue au Muséum de l'Ardèche et spécialiste des milieux de conservation extraordinaire, viendra partager ses recherches et ses découvertes les plus marquantes lors de cette conférence jeudi à 18h. L'ALEC 07, ou l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche, propose un apéro autopartage à la Maison Bleue à la Blachère jeudi à 18h. L'autopartage entre particuliers, c'est quoi ? C'est la possibilité d'emprunter la voiture d'un voisin, d'un habitant de son village, avec partage des frais. Cela est possible en constituant un réseau de partage de confiance et de proximité. Au programme de cet apéro, une présentation de l'autopartage entre particuliers, des discussions et enfin la présentation de l'outil Coloc Auto. Un apéro donc pour permettre aux habitants intéressés de se rencontrer et pourquoi pas de se lancer ensemble dans la création d'un groupe d'autopartage entre particuliers. La participation est gratuite, mais sur inscription, sur donc le site de la LEC 07.
Merci, merci beaucoup pour cet agenda. Nous aussi, on va se lancer dans la création, mais d'un tout autre ordre. Et on commence en musique avec Lucio Bukowski.
D'Odilon Redon, là où les rues sont noires. De belles histoires de suicide dans l'édition du soir. J'ai trié mes rêves, étiré mes vers, respiré les terres, esquillé les pertes et maquillé les cernes. Le monde dans la paume, j'ai accusé l'atome. Sur fond d'un abachoum, j'ai récusé la forme. Observer l'orage est une lutte mortelle. Le temps, le proxénète violent d'un rude bordel. Éviter les balles et l'apanage des grands. Hors des eaux stagnantes du barrage des gens. Demain je lirai Bergson et Adorno. La vie est belle et laide comme une actrice porno. Pourquoi les abeilles disparaissent-elles sans trace? Pourquoi mes pareils disent que les pièces s'encrassent? Ils jettent eux-mêmes leur saloperie au sol. Chouillent en masquant le tout d'une pompe à aérosol. Je sors de ma poche une vieille photographie. Lui sourit, la range et puis rêvasse assis. Échappé des griffes serrées de l'esprit servile. Je suis un homme solitaire dans un Jean-Pierre Melville. J'aime la vie comme une femme aux yeux profonds. Dans le noir je sens beaucoup mieux ses formes au fond. Pourquoi ces mots quand je me sens muet? Parvenant à peine à épocher ce que je voudrais exprimer. Pas assez pour m'en approcher. Pas de sens assez solide pour m'y raccrocher. Et c'est la chute l'ami quand la lutte m'a dit qu'elle était perdue d'avant, je ne l'ai pas cru parti. Tout me paraît vain durant ce court passage de nos existences sous forme de lourds bagages. Laisser ses propres ruines comme l'ancienne Carthage. Le souffle d'une bombe hache en guise de seul partage. Disons que j'ai mieux pour toi et moi. Disons que je vis autre chose, la différence on croirait et voir. Et je m'échappe mieux d'échappe que les charognards du temps ont coulé dans l'océan furieux de chaque cœur. Variant douleur selon les équinoxes. Voici en quoi consiste la raffinée de l'échymose. Faire couler l'eau bouillante sur le sakura. Laisser infuser sur un fond d'afoura. Songer que l'avenir est la seconde suivante. Et que la terreur est au pire enivrante. Je n'ai que l'arme de la vertu contre le rire du vice. Ces mots couchés sur du papier me tirent du vide. Verser le thé dans la tasse encore froide. Modifie les équilibres de leur monde stable. Connais-tu des hommes, des femmes de cœur sincère? Si oui, demeure près de loin du décor infect. Ne pas désespérer est la première des trêves. Une chambre dans la zone qui réalise tes rêves. De la noirceur je ne suis pas l'élève. Mais le fruit étrange et inspiré que l'art élève. Accepter le doute c'est remporter la guerre. La seule promesse de Dieu c'est le retour en terre. Je leur parle d'amour, ils crient expiation. Ceci n'est pas un texte, c'est une expiration.
Lucio Bukowski et Nestor Kya, La Raffinée de l'Échymose, extrait d'album éponyme sorti en 2014. Création, violon, recyclage, collage, comment on sublime le moche, le délaissé, c'est au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'on parle des Journées européennes des métiers de l'art qui auront lieu du 31 mars au 6 avril dans plusieurs communes de la Comcom d'Aubenas, du bassin d'Aubenas. Et on est avec trois invités, trois artisans, trois artisanes, trois créateurs, créatrices, qui sont là. Déborah Di Francesco, Francesco, pardon, qui est luthier, je vais y arriver, Samy Abdenebi, qui est ébéniste, et Claude Vernet, qui est créateur de bijoux. Merci encore à tous les trois d'être là. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est pour vous un métier d'art, je vous propose d'aborder collectivement quelques notions. D'abord, la notion de création. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, qui avez tous des profils différents? Alors, Déborah, par exemple, qui est luthière. Déborah, créer, la création, pour toi, qu'est-ce que c'est?
La création, ça va être... ça va rejoindre un peu notre personnalité, pour moi. Mmh. Enfin, c'est le mot, c'est la notion qui va se ramener à la création, pour moi, la sensibilité de notre personnalité... qui va être mise sur du palpable.
Sur du palpable, sur de la matière.
Sur de la matière, voilà.
Alors, si je pose la question, c'est parce que pendant ces journées, il y aura notamment une table ronde qui a éveillé mon intérêt. Table ronde, le 1er avril, à 12h30, à la médiathèque, ne serions-nous pas tous créateurs? Alors, on va revenir là-dessus, puisque j'ai appris, en fait, en interrogeant Claude Vernet pour préparer cette émission, que c'était toi, Claude, qui avais suggéré cette table ronde. Donc, tu vas nous dire, justement, ce que tu recouvres et ce que tu attends de cette table ronde autour de la création des métiers d'art. Mais avant ça, j'aimerais entendre, Samy, pour toi, la création.
Moi, la création, c'est un peu... je suis un peu mal à l'aise avec ce terme. Je parlerais plus de créativité, dans le sens où j'ai pas l'impression de créer quoi que ce soit et que je trouverais prétentieux de me considérer comme créateur en tant que tel. Mais j'ai l'impression qu'on transforme la matière plus qu'on ne la crée. Et que, enfin, particulièrement moi dans le bois, où je dois toujours me soucier du fil du bois, d'un nœud ici ou là, je prends la matière telle qu'elle est, et c'est à partir de ça que je vais poser ma créativité dessus, et pour en faire quelque chose qui m'est personnel et qui effectivement va refléter ma personnalité, quoi. Enfin, mon envie du moment, ou la façon dont j'ai envie d'exprimer ce morceau de bois-là en particulier.
Et pour toi, Claude?
Samy a quelque peu raison, oui, dans la mesure où, en fait, on est canal. Pour une bonne part, on est canal, en s'appuyant sur l'ensemble de nos techniques, de notre savoir, de notre esthétique. Mais au moment de la créativité, on est canal de quelque chose qui vient de... que nous n'avions pas en nous-mêmes avant. C'est dans ce sens-là où il y a une créativité.
Je ne sais pas si on l'avait en nous-mêmes ou pas, mais en tout cas, effectivement, l'objet tel qu'on l'a créé n'existe pas, enfin tel qu'on l'a matérialisé, on va dire, n'existait pas avant qu'on le fasse. Mais pour autant, tout ce qui le compose existait déjà.
Oui.
Je veux dire, c'est ça que je veux dire.
On n'invente rien. Voilà, dans la créativité, on n'invente rien. Par contre, il y a quelque chose d'innovant qui ressort.
Oui, sûrement.
Et alors, donc, le synonyme à cela, c'est innovant plutôt que création. Si tu
peut-être.
Veux. Bon, pourquoi cette table ronde? En fait, elle est le fruit de mon expérience. Je suis autodidacte à la base. C'est pour ça que je ne suis pas bijoutier, parce que j'ignore, si ce n'est inconsciemment, j'ignore une grande partie des règles de l'art. Mais je suis créateur de bijoux avec, comment dire, un voyage. L'atelier s'appelle Itinérance. Avec un voyage que j'ai fait qui m'a amené à me sentir créateur. Créateur, c'est un besoin, c'est une passion, un besoin de se découvrir, de découvrir des formes, de découvrir des techniques, et aussi c'est thérapeutique. La création en elle-même, c'est quelque chose qui maintient, qui favorise la santé.
Tu parlais notamment d'émancipation quand on s'est eu...
Moi, j'ai vécu ce chemin-là, un chemin d'émancipation, où je suis parti dans une certaine posture et j'arrive dans une autre posture avec une maturité, avec une, on va dire, entre guillemets, hein, parce que tout le monde traverse des moments qui ne sont pas très hauts, mais avec une certaine maîtrise et quelque chose de plus effectif, de plus cerné, de plus...
Ça recroise avec une autre notion qu'on abordera peut-être plus tard, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reconversion, ou en tout cas quelque chose qui s'y approche. Mais là, j'ai l'impression qu'on est avec vous trois sur des profils très différents et même on mêle créateur ou je sais pas acte de création et artisanat. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite différence, notamment en tant que luthière. Toi, tu as une forme. Il faut que ce soit quand même. Il y a pour tout le monde une utilité de l'objet. Une bague doit être portée, hein, si elle est trop lourde ou je sais pas quoi, ou trop petite, ça ne sera pas porté, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de contraintes et moins de création. Enfin, je ne sais pas, peut-être je me trompe en tant que luthière.
Non. Nous, en fait, quand on va à l'école, on va reprendre les codes qui ont déjà été faits au XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Donc, en fait, on fait des copies d'instruments de grands luthiers de cette époque-là, de ceux qui ont créé l'instrument tel qu'il est aujourd'hui et qui n'a pas véritablement changé. Et donc la création, c'est vrai que nous, chez nous, on n'en a pas vraiment parce que, surtout un lutherie du quatuor à cordes, on a... Dès qu'on sort du lot, qu'on veut faire des instruments de musique... un peu hors du commun ou d'une autre forme qu'on connaît, on va être considéré comme un fou. Mmh. C'est ce qui est arrivé à mon maître luthier chez qui j'ai appris la lutherie en Belgique. Donc lui, il fait vraiment de la lutherie contemporaine dans le quatuor à cordes. Et donc il fait vraiment des instruments, on va dire, d'aliesque. c'est assez impressionnant.
Ah, c'est assez fou.
C'est assez fou et on l'a pris pour un fou parce que c'était un milieu quand même assez traditionnaliste avec des codes très particuliers, très anciens.
Mmh. Bah alors là, on touche quand même quelque chose parce qu'on vient de parler de création, d'émancipation, de standard, alors que là, finalement, ça rejoint, il y a une tradition. Donc comment on trouve sa place ? Là, on est plus dans les règles de l'art, tu en parlais, Claude, des règles de l'art à respecter dans la tradition et où, voilà, ta singularité à toi, est-ce qu'elle peut s'exprimer ou non ? Et sinon, est-ce que c'est grave ?
Est-ce que c'est grave? Non. Je dirais rien n'est grave. Mais c'est une certaine forme de courage qu'il faut prendre en se disant bah, tiens, je vais briser les codes de ce qui a été fait avant et puis ça va peut-être faire évoluer aussi la mentalité dans ce métier-là ou même faire évoluer en fonction de la musique, parce que la musique aussi, elle change. Et donc, je pense qu'il y a une véritable recherche à faire. Ça ne va pas forcément être de la création, mais ça va être de la recherche. Et ça va être aussi un peu de l'innovation, comme disait Claude.
L'adaptation aussi, de l'adaptation. En fonction des bois, peut-être.
Oui, bah ça, c'est plus la partie écologique qui va l'aborder. Sinon, question création.
Alors, on va y venir. Claude, tu voulais ajouter.
Ce que me fait penser ce que dit Déborah, c'est que, comme un pianiste, il a besoin de faire ses gammes pour s'approprier l'instrument qu'il est et l'instrument qu'il a sous les doigts. Après, une fois qu'il a les techniques, qu'il s'est approprié tout ça, il peut rentrer dans l'expression artistique, dans la créativité, mais qu'après, être en possession de ses outils, de ses organismes, c'est une question de maîtrise. Mmh. Voilà. Et après, c'est vrai qu'on peut passer pour fou.
Oui.
Juste question pour réagir, en fait, parce que c'est... Merci. Moi, justement, en tant qu'autodidacte aussi, donc c'est une reconversion, on en a parlé, et j'ai pas eu trop le choix, et puis en même temps c'est un peu un parti pris que j'ai adopté, de m'affranchir complètement des règles de l'art que je ne maîtrisais pas, et pour me dédier complètement à la création, c'est-à-dire que, enfin, la création à la transformation de la matière et à la matérialisation de quelque chose que j'avais en tête. Donc j'ai appris les techniques à utiliser, parce que il y a pas toujours le choix. Mais je veux dire, plutôt que de me dire c'est comme ça que ça doit être fait, je dis ok, je veux faire ça, comment je peux le faire, Et ensuite, on va trouver un moyen d'y arriver, quoi.
Je te voyais réagir, Claude, à ce qu'il disait.
Oui, ben, c'est tout à fait ça, la création. Moi, j'ai à peu près eu le même type de démarche, mais différemment, bien sûr, puisqu'on n'est pas le même. Mais où j'ai, dans l'ignorance des techniques, quand même, il y a une base... dans l'ignorance des techniques, il a fallu que j'invente, il a fallu que je m'adapte, il a fallu que je fasse des essais, des erreurs, que je revienne en arrière, que je recommence. Et c'est énormément de temps et de courage, comme disait Déborah. Et de choix. En fait, c'est le choix qui est à la base de cela. Selon le choix que l'on fait, on prend un chemin ou un autre, et donc l'histoire n'est pas la même.
De choix, de retour, d'aller-retour, ça me fait penser à ce qu'on a commencé à aborder, ces allers-retours, cette notion de temps et de alors j'allais dire de perdurabilité, je ne sais pas si ça, c'est un mot qui existe, mais en tout cas de pérennité, voilà, de durabilité, et c'est aussi une dimension qui est assez présente, et d'ailleurs il y aura une autre table ronde autour de l'écologie, l'écologie dans les métiers d'art, voilà, qui aura lieu le vendredi 4 avril à 12h30, aussi à la médiathèque. Et j'ai l'impression que aussi ce qui sous-tend vos métiers, mais vous allez me dire, c'est cette attention à la restauration, à ce qu'on appelle l'upcycling ou l'upcyclage, je ne sais pas, de redonner vie à des matières qui sont un peu laissées pour compte.
Ouais, complètement.
Ou abîmé.
C'est l'économie. C'est
oui, ouais. Le système D.
Ouais, au-delà de ça, moi je pense qu'il y a quand même un parti pris, un positionnement en fait. Moi je sais que je suis. Le terme est mal choisi, ou en tout cas je le galvaude dans le sens où je me définis comme matérialiste parce que j'aime les objets en tant que tels, et j'aime qu'on s'y attache, et j'aime qu'on les garde un moment. Et qui partagent un peu de notre vie, et qu'à la fin ils aient du sens pour nous, et puis qu'ils puissent presque nous raconter comme des carnets de notes. Et justement, quoi, j'avais envie de créer des objets qui soient pas jetables, pas consommables en fait. Un objet qu'on a pris du temps à fabriquer et qu'on prendra du temps et du plaisir à utiliser au quotidien pour justement que aller un peu à l'inverse de l'obsolescence programmée et de l'industrialisation. J'ai fait un bac ES, et ce dont je me souviens, ça date, ça n'existe plus, j'imagine. Et ce dont je me souviens de l'industrialisation, en fait, c'est que pour que le système fonctionne, il faut qu'on crée pour jeter, pour créer, pour rejeter, pour créer, pour jeter. Et je trouve ça un petit peu ahurissant au jour où on en est. Et donc c'était un peu de prendre ça à contre-pied et de pouvoir fabriquer des objets qui vont durer, qui vont nous accompagner. Et la démarche écologique pour moi elle est là avant même d'aller chercher l'objet, la matière première localement, tout ça, évidemment, parce que sinon ça n'a pas de sens. Enfin, je vais pas faire venir des matériaux de l'autre bout du monde pour ensuite
l'Indonésie, oui.
Ouais, voilà, pour ensuite leur donner vie. Par contre, à l'inverse, effectivement, tu parles de l'Indonésie ou des pays qui exportent des bois exotiques, il y a beaucoup, et puis parce qu'on l'a beaucoup fait justement par le passé, il y a beaucoup de meubles en bois exotique qui sont en déchetterie parce que ils ont duré, parce que d'un point de vue esthétique c'est un petit peu daté, tout ça, mais il y a plein de matières à récupérer et qu'il me semble on devrait justement aller magnifier plutôt que d'en faire des copeaux pour faire des meubles de grande surface.
Sur cet aspect justement de seconde vie.
Alors en lutherie, dans la fabrication, déjà nous on est assez limité pour le bois parce que c'est un découpage particulier en quartier sur une bille. Bon, ceux qui connaissent un peu le bois, voilà. Et en fait, on n'a qu'un bûcheron en France qui fait ce découpage-là spécialisé et qui sélectionne aussi les arbres dans les forêts. Il se trouve dans le Haut-Jura. C'est le bois de lutherie et qui fournit le bois de lutherie pour quand même un certain nombre de luthiers. Eux, ils sont confrontés au fait qu'il y ait des vers qui bouffent le bois, les scolytes. Et donc, l'épicéa qu'on utilise ou l'érable qu'on utilise, il va être attaqué, surtout l'épicéa, parce qu'il est très tendre. Et donc, on a de moins en moins de bois. Et le temps de séchage, du coup, on le réduit. Normalement, il y a ça aussi dans la durée, c'est que normalement, c'est 20 ans de séchage avant d'utiliser le bois pour fabriquer un instrument. Et donc là, on a été obligé de le réduire à 10 ans pour pouvoir fabriquer des instruments. Donc on a cette problématique-là. Ensuite, pour les touches, donc là où on pose les doigts pour faire des notes de musique avec les cordes, c'est de l'ébène. Et donc, voilà, donc c'est un bois exotique. On n'a pas toujours utilisé ça parce qu'à l'époque, on avait des cordes en boyau, donc beaucoup plus tendres. Là, maintenant, c'est des cordes métalliques qui vont attaquer plus facilement le bois. Et donc, l'ébène, c'est une matière première qui est quand même assez dense et assez solide. Mais pareil, on se retrouve confronté maintenant avec du bois qui est de plus en plus de mauvaise qualité, qui est braconné. Et donc voilà, après il y a la CITES qui est la convention de Washington de la préservation de la faune et de la flore contre l'extinction, et du coup qui mettent en place aussi des restrictions vis-à-vis de certains bois, et donc c'est un peu plus compliqué de se fournir sur certaines espèces.
Mais par exemple, est-ce que tu as déjà en tant que luthière construit des instruments ou restaurer, parce que j'ai cru comprendre que toi, tu étais beaucoup sur la restauration, oui, et pas forcément sur la construction.
Oui.
Mais à partir d'essences inhabituelles, mais d'essences locales, je sais pas, en châtaignier, je dis n'importe quoi.
Oui, non, mais bien sûr, mais ça peut se jouer. Je crois que mon compère luthier guitare a justement fait ça, une guitare en châtaignier. Et donc, en fait, c'est ce qui était fait à l'époque baroque, donc au XVIIe siècle. Ils ont commencé par travailler que du bois local, forcément. Donc là, il y a des recherches. Il y a le bois de Lutry, justement, qui est en train de faire des touches d'un bois indigène, donc français, teinté, voilà, pour... rappeler l'ébène, avec une densité recherchée. Mais ça peut aussi amener à plus de restauration parce que le bois va plus bouger. On verra.
Et pour toi, Claude, cette idée-là de...
C'est une vaste question.
Voilà, il nous reste très peu de temps.
Ouais. Disons que je travaille avec des matériaux improbables, dans la mesure où ce sont souvent des matériaux de récupération. Je travaille de l'ébène, mais c'est de l'ébène que j'ai depuis très longtemps, que j'ai eu par des échanges avec des clients, entre autres, hein, pas uniquement. Mais bon, je travaille, j'ai eu des chutes de luthiers de Pernambouc, qui est incommercial, lisable quasiment. Bon, pour dire que je travaille avec des matériaux improbables, parce que pour moi, il s'agit, pour moi, bricoleur, il s'agit de d'aller sur des chemins qui m'intéressent, qui me rendent curieux, et de redonner une vie à ces matériaux-là, une vie qui n'est pas la vie qu'on connaît couramment ou qu'on veut imaginer, et de les valoriser, quoi. En fait, parfois, c'est des matériaux qui sont en 3e ou 4e vie.
Un petit peu comme... j'allais dire un petit peu comme vous. En fait, vous êtes, on parlait de reconversion, et en fait, il y a la reconversion du matériau, de la matière, et la reconversion de celles et ceux qui reconvertissent. Voilà, c'est ça, vous êtes...
Et de la posture.
C'est ça, ouais, la posture. Voilà, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on arrive à la fin de cette émission. La durée, ça c'est une donnée précieuse,
oui,
dont on dispose peu à la radio. Mais ça c'est aussi, on l'a entendu aussi en sous-texte, quelque chose d'important pour vous tous de prendre le temps. Et d'ailleurs, quelquefois, vous n'avez pas le choix. Tu l'as dit, notamment pour le séchage en fait, du bois, 20 ans, 10 ans maintenant. Voilà, tout ce qui doit prendre du temps, tout ce qui ne se fait pas instantanément. Et avec j'allais presque dire, la lutte, ou en tout cas le travail de la matière, enfin je dis la lutte, mais parce que...
C'est pas un combat,
c'est
plus avec la matière.
Ouais,
bah, je le définirais pas comme ça.
Non, oui, c'est pour ça. Je voulais pas dire combat, mais en tout cas, il y a quelque chose de très physique avec la matière.
Complètement.
De l'humilité. De l'humilité, de la persistance, de la... Oui, oui, c'est... C'est exigeant, la matière.
C'est exigeant, ouais, comme vos métiers. Merci beaucoup à tous les trois. J'invite les auditrices, les auditeurs à venir vous rencontrer pendant ces...
Il y a des expos collectives, il y a des ateliers ouverts. Et puis, il y a tout le programme qui est disponible sur le site de la CMA Ardèche, de la Comcom du bassin d'Aubenas aussi.
Ouais. Exactement.
Parce que j'oublie.
Oui. Tout ça, vous trouverez donc tout le programme. Ça commence le 31 mars et ça se poursuit jusqu'au 6 avril. Donc plein de communes ici à Aubenas, à la Bastide-sur-Besorgue, à Saint-Étienne, de Fontbellon, à Vals, à Vaisseau. Voilà, vous retrouverez tout le programme. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 15h, c'est le Telex. À 17h, vous retrouvez la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, Polymix et la voix off. À 20h, Salut à toi. Et à 21h, Metal Zone. Merci, on se retrouve jeudi pour écouter du son. Non, écouter des paysages. Un peu les deux. Et oui, écouter des paysages. Oui, oui. Tendez l'oreille, ce sera jeudi. Ciao.